Jean. Jean.
Jean.
Jean, chapitre 18, verset 24. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Amen. La dernière réunion que nous avons eue sur l'évangile de Jean nous a montré Jésus comparaissant devant Anne, le souverain sacrificateur honoraire. C'est-à-dire le souverain sacrificateur qui n'était plus en exercice et qui était le beau-père de Caïphe. Caïphe était, lui, le souverain sacrificateur en exercice. Chez Anne, nous avons dit aussi que ce n'était qu'une comparution de déférence pour l'ancien. Une comparution de déférence. Mais chez Anne, aucun jugement ne pouvait être prononcé. Le véritable président du Sanhédrin étant le souverain sacrificateur en exercice, c'est-à-dire Caïphe. Le Sanhédrin comprenait 70 personnes, plus une, le président, qui était le souverain sacrificateur.
chez Anne.
Il est évident que un motif d'accusation aurait pu se présenter. C'est bien d'ailleurs ce que Anne avait recherché. Mais il n'en avait rien été et aucun motif n'avait pu être trouvé. C'est donc chez Caïphe que l'on conduit Jésus. Anne l'envoya lié. Jésus est toujours lié, n'est-ce pas? À l'exception, bien entendu, des jambes, il peut marcher, mais il est lié, il a les mains liées, n'est-ce pas? Il est lié et on l'envoie ainsi chez Caïphe, le souverain sacrificateur. Et c'est là que, c'est à ce moment que vont se produire les deux reniements, les deux derniers, puisqu'il y en a eu déjà un dans le récit précédent, nous l'avons dit, les deux derniers reniements de Pierre. Avant de parler de ces reniements, regardons un texte de Luc 22. Luc 22, 61. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Eh bien, il s'était passé en somme ceci. Là.
Représentons-nous les choses de cette manière-là. Voilà, représentons-nous les choses ainsi pour bien comprendre comment ça s'est passé. Voici là, ici, l'entrée du palais, ici c'est, je présente la cour, n'est-ce pas, le palais ici, n'est-ce pas, ici c'est donc le palais des souverains sacrificateurs. Il y avait un palais des souverains sacrificateurs. Et ce que je présente ici, c'est la cour carrée intérieure. Alors, pour être juste, nous pourrions faire ceci, si vous voulez. N'est-ce pas? Ici, ce sont des bâtiments. Les bâtiments, n'est-ce pas? Et puis, on entre dans la cour carrée. Alors, j'imagine, je ne sais pas quel endroit c'était exactement, n'est-ce pas? Enfin, pour nous présenter les choses, imaginons ici que ce soit l'entrée des appartements du souverain sacrificateur honoraire. Ah! C'est-à-dire le beau-père de Caïphe, qui habite lui aussi le palais, il habite toujours le palais des souverains sacrificateurs. Et il n'est plus en exercice, mais c'est un ancien qui est vénéré, qui est honoré, et on ne peut pas juger Jésus sans lui avoir déjà présenté l'accusé. Parce que lui ne va pas siéger ou je ne pense pas qu'il siège, il ne siège plus au sang et drain. Alors, par déférence, c'est un ancien honoré, on va lui conduire Jésus, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et bien alors, ici, n'est-ce pas, ici, voilà le braquet. Vous savez que les serviteurs, les huissiers et les serviteurs, certains serviteurs du souverain sacrificateur, pendant que Jésus était entré chez Anne et qu'on l'interrogeait chez Anne, ils avaient allumé dans la cour un feu, un brasier pour se chauffer, parce qu'il faisait très froid. Alors, nous avons vu que Pierre, lui, était resté Pierre était resté à la porte d'abord. Et puis, un autre disciple, et nous avons dit que c'était probablement Jean, était entré parce qu'il était connu du souverain sacrificateur Ars. Il était connu, on sait comment, mais pas enfin. Il avait donc la possibilité d'entrer. Et ici se tenait la personne, la servante, qui est appelée la portière, disons la concierge. Ben, elle était là. Alors, elle n'avait pas laissé entrer Pierre n'avait pas tenté d'entrer, puisque il n'était pas connu. Mais Jean, mettons que ce soit Jean, est entré. Mais Jean, aussitôt alors, ressort, n'est pas été ressorti, avait parlé à la concierge, et la concierge avait laissé rentrer Pierre. Et Pierre était venu se chauffer, lui aussi, avec les huissiers et les serviteurs du souverain sacrificateur. Mais au passage, ici, la concierge l'avait regardé, probablement avec sa lampe, nous étions de nuit, bah, ça se passait de nuit, l'avait regardé avec sa lampe, et puis, elle avait dit, mais n'es-tu pas toi aussi de ces gens-là? Et Pierre avait dit, moi, je ne le connais pas, je ne suis pas de ces gens-là. Premier reniement. C'était donc à l'entrée. Puis, Pierre était là, et il devait converser avec ses hommes, n'est-ce pas? Il se chauffait avec eux. Mais voici que l'interrogatoire chez Anne a pris fin, alors c'est notre texte d'aujourd'hui, l'interrogatoire a pris fin et Jésus ressort. Jésus, n'est-ce pas, est emmené chez Caïphe. Alors, nous pouvons imaginer ceci. Alors, ça, n'est-ce pas, je vous le rappelle, ici au milieu, c'est le bras du pain. Alors, voici le trajet qu'on fait faire à Jésus. Et ici, je suppose que c'est Caïphe. N'est-ce pas, c'est la maison, c'est l'habitation de Caïphe avec la salle d'audience du sang et de rein. C'est ici. Alors, on emmène Jésus chez Caïphe. Et alors, avec Jésus, ceux qui étaient entrés, les serviteurs du souverain sacrificateur qui étaient entrés, sortent aussi. Il y a un groupe de personnes qui sortent avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus est lié, on l'emmène, et beaucoup de personnes suivent. Et alors, ici, n'est-ce pas, Pierre est là. Et vous, il est toujours près du brasier, Pierre. Hein? Et alors, là, n'est-ce pas, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, quelqu'un qui pose une première question à Pierre, et puis qui lui dit, mais dis donc, toi, n'étais-tu pas aussi avec ces gens-là? Moi, je n'en suis pas. Mais non, n'est-ce pas, il va le nier. Alors, c'est le deuxième reniement. Alors, ça se produit, mettons, lorsque Jésus, si vous voulez, est à ce point du parcours, n'est-ce pas, à ce moment-là, deuxième reniement. Et puis, Jésus arrive ici, à peu près ici, et alors, un serviteur passe là, près du brasier, un serviteur, et ce serviteur était un parent de Malchus, à qui Jésus avait tendu l'oreille. Pierre, du moins deux, à qui Pierre avait tendu l'oreille. Oui, Jésus a collé l'oreille. Alors, Pierre avait tendu l'oreille. Alors, ce souverain, ce serviteur, n'est-ce pas, ce serviteur, parent de Malchus, aperçoit Pierre et puis lui dit, mais dis-donc, ne t'ai-je pas vu, toi, dans le jardin? Ils vont bien te reconnaître. Je t'ai vu dans le jardin. Ce qui l'avait mis en évidence, c'était le coup d'épée. Je t'ai vu dans le jardin. Alors Pierre dit, moi, non, moi je ne connais pas, je ne suis pas ces gens-là. Je ne suis pas. Troisième reniement. Et pendant ce temps, Jésus, si vous voulez, a fait ce parcours, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, cocorico, le coq change. Le coq change. Et il nous est dit dans Luc, comme je vous l'ai lu, Jésus se retourna. Je situe Pierre, voyez ici, n'est-ce pas? Jésus se retourna. Jésus se retourne et il voit Pierre. Il regarde Pierre. Et Pierre saisit ce regard de son maître, les regards de croire. Ah, c'est là que se passe, parce que Jésus, n'est-ce pas, lui avait annoncé le coq, lorsque le coq chantera, tu m'auras renié trois fois. Et au troisième reniement, aussitôt après, nous dit l'évangile de Jean, aussitôt après, bah, le coq chanta. Et c'est là que Jésus regarda, se retourna pour regarder Pierre. Vous voyez comment les choses ont pu se passer. En tout cas, nous imaginons un peu, évidemment, dans cela, mais ça ne peut pas être loin de la vérité.
Le transfert de Jésus avait donc nécessité la traversée de la cour du palais du souverain sacrificateur. Et voici que Jésus parvient... Jésus parvient chez Caïphe. Mais ici, l'évangéliste Jean ne nous rapporte pas le jugement qui se déroule devant Caïphe, devant le Sanhédrin, Caïphe qui préside le Sanhédrin. Je vous ai déjà dit la dernière fois que Jean connaissait les évangiles synoptiques, il connaissait les précédents évangiles, et par conséquent, il ne voulait pas reproduire ce que les synoptiques avaient déjà dit. Tel n'était pas le but de son évangile qui venait presque à la fin du premier siècle, n'est-ce pas, alors que les autres étaient répandus et connus déjà, le dessein n'était pas donc de redire ce qui avait déjà été dit. En somme, les redites se limitent à très peu de choses entre l'évangile de Jean et les trois synoptiques. C'est pourquoi Jean, ici, Jean, ici, ne nous parle pas du tout de ce qui se passe chez Caïphe. Il mentionne simplement l'avenue chez Caïphe, n'est-ce pas, la comparution chez Caïphe, et puis les reniements de Pierre, et c'est tout. Et puis, au verset 28, nous en arrivons tout de suite à la comparution chez Pilate. Chez Pilate. Nous arrivons à la comparution devant Pilate. Tout ce qui précède, il faut bien, n'est-ce pas, se le rappeler, s'est passé au cours de la nuit. Au cours de la nuit. S'est passé beaucoup de choses au cours de cette nuit. D'abord, le dernier entretien du Seigneur s'est passé en dehors de la salle où avait eu lieu l'institution de la scène, s'est passé dans la ville de Jérusalem, dans un lieu qui n'est pas précisé, et puis Jésus avait franchi le Cédron, la dépression du Cédron, n'est-ce pas, pour aller à Gethsémané. Là, on l'avait arrêté, c'était toujours pendant la nuit, les gens étaient venus avec des lanternes et des flambeaux, c'était pendant la nuit. On l'avait fait comparaître chez Anne, c'était pendant la nuit aussi, probablement dans les dernières heures de la nuit, n'est-ce pas? Et là, Anne, certainement, s'était levée pour recevoir Jésus. Et puis, chez Caïphe également, Caïphe ayant été prévenu, avait eu le temps de se préparer. D'ailleurs, tout le monde était prêt, puisqu'on avait envoyé des huissiers, c'est-à-dire les sergents du temple, pour saisir Jésus, accompagné d'une partie de la cohorte romaine. Et lorsque Pierre fait son deuxième et troisième reniement, à ce moment-là, le coq chante, c'est assez dire que c'est la pointe du jour, n'est-ce pas? C'est l'aurore. Et la comparution devant Pilate se fait donc aux toutes premières heures du jour. Le Sanhédrin qui s'est réuni donc, sans que Jean nous rapporte le jugement, la scène du jugement, le Sanhédrin n'a plus le droit de prononcer une peine de mort. Ce droit lui a été ôté par l'autorité romaine. Et même la lapidation d'Étienne, par exemple, sera un fait spontané de la vindicte publique, n'est-ce pas, mais ne sera pas un fait légal. Les Juifs se sont laissés emporter par leur haine. Lorsqu'ils ont lapidé, lorsqu'ils lapideront Étienne, ils n'en avaient aucun droit. Et là, n'est-ce pas, ils ne peuvent pas mettre Jésus à mort. Il faut bien se rendre compte que Pilate, qui est gouverneur romain en Judée, gouverneur romain de la Judée, Pilate est informé de tout ce qui se passe. Il est informé de tout ce qui se passe, et par conséquent, les Juifs ne sauraient passer outre à l'interdiction qui leur a été faite de prononcer une peine de mort. Aussi faut-il que, bon gré, mal gré, ils conduisent Jésus devant le gouverneur romain. Il nous est dit ici qu'ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. Qu'est-ce que c'est que le prétoire? Eh bien, le prétoire, c'était au moment du premier siècle, c'était la résidence d'un homme auquel on donnait le titre de prêteur. Et prêteur, en l'occurrence, c'était Pilate, qui était procurateur, il s'appelait exactement procurateur et non gouverneur ni prêteur, mais enfin le nom de prétoire, c'est-à-dire résidence du prêteur, était resté au palais qu'occupait le procurateur romain Pilate. En réalité, la véritable résidence de Pilate était Césarée. Mais pour bien des raisons politiques et surtout là, à l'occasion des fêtes, le procurateur Pilate est venu à Jérusalem où il dispose d'un palais. On suppose que ce palais, appelé ici le prétoire, serait l'ancien palais des Hérodes. Ce n'est pas absolument sûr. Mais enfin, les historiens le disent, que ce serait l'ancien palais des Hérodes. En tout cas, là était le tribunal. Il y avait au prétoire, c'est-à-dire dans cette résidence, n'est-ce pas, du procurateur romain, il y avait l'administration romaine, le siège de l'administration romaine, et naturellement une salle d'audience. Une salle d'audience, d'ailleurs bien caractéristique dans les pièces des palais romains. Cette salle d'audience avait un pavé particulier, tout à fait particulier. Un pavé en mosaïque tout à fait particulier. Et les Juifs, nous est-il dit, ne veulent pas rentrer dans le prétoire. Par conséquent, ils restent dans la rue. Ils restent dans la rue. Ils ne veulent pas rentrer dans le prétoire, donc dans le palais du procurateur romain, et ils restent dehors. Ils font simplement entrer Jésus, n'est-ce pas ? Pilate, qui est prévenu, les reçoit, mais il est obligé de sortir. Pilate sortit pour aller à eux. Il est obligé de sortir, d'aller dans la rue, parce que les Juifs ne sont pas rentrés. Et quel est le motif des Juifs? C'est qu'ils ne veulent pas se souiller. Se souiller, entrer dans une maison païenne, et en outre, entrer dans la salle d'un tribunal romain, tribunal païen par conséquent. Ce serait au moment de la préparation de la Pâque. Ce serait, n'est-ce pas, selon la loi, quelque chose qui les souillerait, qui les rendrait impurs. Mes chers amis, on découvre là, n'est-ce pas, toute l'hypocrisie, l'abominable hypocrisie de ces hommes même, car la souillure, où était-elle? Elle était dans leur cœur, elle était dans leur haine, elle était dans leurs intentions de mettre à mort le Seigneur Jésus. Elle était dans le refus de Dieu, dans le refus du royaume de Dieu, pour des avantages terrestres. Telle était leur grande souillure. Et voyez ces hommes qui refusent, pour ne pas se souiller selon la loi, ne prennent de la loi que la lettre, que ce qui est superficiel. Et ces hommes sont tombés dans le formalisme. Chers amis, le formalisme a toujours été et sera toujours l'allié de l'hypocrisie, religieuse. Vous savez que la religion a ceci de particulier, c'est que ou bien elle est tout à fait vérité, elle est tout à fait vraie si elle est vécue, ou bien alors elle est toute hypocrisie, parce que la religion s'entoure toujours de certaines apparences, c'est ça, et si les apparences ne correspondent pas à une réalité du cœur et de la vie, alors là, il y a hypocrisie. Et le formalisme est nécessairement l'allié de l'hypocrisie. Ou inversement, si vous voulez. Et chers amis, nous n'échappons pas, nous, à cette règle aujourd'hui. Il faut bien le dire. Si nous tombons dans le formalisme, c'est que notre cœur, ce n'est plus notre cœur qui nous fait agir. Ce n'est plus notre cœur qui nous pousse à la réunion. Ce n'est plus notre cœur qui nous pousse à chanter et qui nous pousse à participer au culte et à la scène, au repas du Seigneur, si nous sommes dans le formalisme. Si nous sommes dans le formalisme, nous obéissons à des formes, nous obéissons à des habitudes, nous avons fait de ce qui était bon au départ quelque chose qui devient traditionnel. Et puis notre cœur, n'est-ce pas, qui n'est pas dans l'obéissance, je suppose, n'est-ce pas? Lui, il n'est pas associé à tout cela, et ce n'est pas lui qui est la source du culte. Le culte est tout extérieur et dans des formes. Alors, il y a hypocrisie. Il y a hypocrisie, n'est-ce pas? Il y a toujours eu hypocrisie. La religion, c'est donc quelque chose de difficile, de délicat. Quelque chose qui requiert la vérité en tout temps. Faute de conserver la vérité en matière religieuse, en matière de culte, en matière de relation avec le Seigneur Dieu, faute de conserver la vérité, on tombe dans l'hypocrisie et le formalisme. Prenons bien garde à cela, mes amis, tout cela nous guetterait autant que les générations qui nous ont précédés. À nous de le savoir. Pilate donc sort pour demander aux Juifs quelle est l'accusation qu'ils ont apportée contre Jésus. Et la réponse que donne ici Jean est bien courte. Si ce n'était un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. En réalité, l'accusation, il faut la trouver dans Luc 22. Luc chapitre 22. 23 par conséquent, par contre, 23, et verset 2, ils se mirent à l'accuser, disant, nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même, Christ, roi. Voilà, n'est-ce pas, l'accusation des Juifs devant Pilate. Mais cela, ils le disent dans la rue. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. En somme, les Juifs accusent Jésus de sédition. De sédition contre l'autorité établie. Christ roi, n'est-ce pas, ils savent très bien que Christ roi, cela veut dire Messie, et que le roi est un Messie, qu'il se soit dit le Messie et qu'eux, ils ne le croient pas, c'est une chose qui ne regarde pas l'autorité romaine. N'est-ce pas? Mais eux, ils jouent, ils sont hypocrites. Alors, ils jouent là-dessus. En disant, en prononçant ce mot roi, il sait dire roi à Pilate. Il sait bien que Pilate va d'abord entendre ceci. Voilà un homme qui veut régner, voilà un homme qui veut préparer un coup d'État, n'est-ce pas, et s'emparer du règne sur la Palestine, sur la Judée, peut-être seulement, enfin, s'emparer de l'autorité. Pilate est plutôt désireux de se débarrasser de cette affaire qu'il connaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a eu déjà des rapports, il est désireux de s'en débarrasser. Et il va, lui, dans sa réponse, dire aux Juifs, ben écoutez, jugez-le selon votre loi, moi je n'ai que faire de cela, jugez-le donc, vous, selon votre loi. Mais les Juifs entendaient faire mourir Jésus et de disposer de l'accusé, cela ne fait pas leur affaire. Ils préfèrent aujourd'hui, n'est-ce pas, reconnaître devant Pilate qu'ils ont été privés de certains droits par l'occupation romaine, notamment du droit de mise à mort. Ils le reconnaissent parce qu'ils veulent faire mourir Jésus. Et ils entendent que Jésus ne soit mis à mort, mais seul Pilate a le droit de prononcer la peine de mort. Là intervient un verset qui nous dit ceci, le verset 32. C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Jésus avait en effet indiqué que il serait élevé quand j'aurai été élevé. J'attirerai tous les hommes à moi quand j'aurai été élevé. Et élevé, ce mot qui est employé, qui est traduit par élevé dans ce même évangile de Jean, veut dire crucifié. Veut dire crucifié. Élevé veut dire pendu. Quand j'aurais été pendu au bois, si vous voulez, pendu au bois, ça ne veut pas dire tout à fait crucifié, mais pendu au bois, quand j'aurais été pendu au bois, et on savait de quelle pendaison il s'agissait d'une pendaison par crucifixion. Ce mode de supplice et de mise à mort venait de Rome, de l'autorité romaine. Les Juifs, eux, avaient la lapidation, mais la crucifixion était d'institutions romaines. Jésus avait donc dit cela, qu'il serait élevé, crucifié. Et cela, bien entendu, était conforme à tout ce que l'Écriture avait annoncé. Vous savez que le livre de l'Exode, le livre des Nombres, un psaume aussi, nous montre qu'aucun os ne devait être brisé. Or, si Jésus avait été lapidé, selon la loi de Moïse, il aurait subi des blessures et, comme c'était le cas en général, des fractures. Il aurait subi des fractures. Or, il ne fallait pas de fractures, ce qui voulait dire qu'il ne serait pas lapidé. Mais il devait mourir d'une autre manière. Au verset 33, nous lisons « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» L'accusation qui était portée contre Jésus, accusation de sédition, était une accusation de nature politique. On accusait en somme Jésus de prétendre à la royauté, alors que le Sanhédrin ne l'avait pas trouvé coupable de cela. Le Sanhédrin l'avait seulement trouvé coupable d'un blasphème. Et d'un blasphème parce que Jésus avait dit la vérité, avait prophétisé que désormais on verrait le Fils de l'homme revenant, descendant du ciel sur les nuées. Et cela avait paru être blasphématoire, ces gens du Sanhédrin qui n'avaient pu saisir aucun motif, aucun autre motif. Ils avaient retenu celui-là, qui était un faux motif. Et là, il l'accuse de sédition. Nous voyons bien donc que dans le procès fait par les Juifs à Jésus, tout est mensonge. Tout est mensonge, tout est contradiction et haine. Ils m'ont haï sans cause. Tout est vraiment action du diable, du maître de ce monde. Au verset 34, Jésus répond à la question de Pilate, « Es-tu roi des Juifs ?» Et Jésus va répondre par une question qu'il pose lui-même à Pilate, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pourquoi Jésus pose-t-il cette question ? Eh bien, voici pourquoi. Il entendait rompre une équivoque. Roi des Juifs. Pilate avait dit, es-tu le roi des Juifs ? Roi des Juifs pouvait s'entendre de deux manières. Soit roi des Juifs en tant que Messie, et roi envoyé de Dieu, c'était quelque chose qui restait attaché à la religion des Juifs, quelque chose qui était d'ordre, disons, religieux ou spirituel. Et tandis que roi des Juifs pouvait s'entendre aussi, roi à la manière de Salomon, à la manière de David, n'est-ce pas ? C'est-à-dire roi exerçant vraiment l'autorité temporelle sur le peuple juif. Et Jésus veut que Pilate sache bien qu'il lit l'équivoque dans son cœur. N'oublions pas que Jésus avait ceci, n'est-ce pas, de magnifique. Voyez la disproportion, n'est-ce pas, disproportion selon, selon que l'on regarde les choses dans un sens ou dans l'autre, il y a disproportion. Si on regarde les choses sous couleur humaine, on voit le puissant procurateur et l'homme despotique qu'était Pilate, l'homme cruel et despotique, n'est-ce pas, devant cette pauvre victime, cet homme qui était là, Jésus, et qui n'avait rien pour se défendre, personne pour le défendre, qui était à sa merci. Alors, n'est-ce pas, disproportion sous couleur humaine. Mais regardons d'un autre point de vue. Regardons les choses sous couleur de réalité. Eh bien, nous voyons ce pauvre Pilate, homme livré à tous ses péchés, à tous ses penchants, à son mauvais cœur, l'homme ambitieux, devant l'homme Dieu, devant celui qui était Dieu, et qui lisait dans son cœur. Jésus n'avait pas besoin qu'on l'informe de ce qui était dans l'homme, car il savait ce qui était dans l'homme. Et Jésus, l'accusé, lit dans le cœur de son juge. Quelle chose extraordinaire! Comme les situations, n'est-ce pas, se renversent lorsqu'on les considère soit par la foi, soit selon les apparences. Et alors, Jésus voulait donc que cet équivoque soit dissipé. Alors, est-ce de toi-même, est-ce selon le langage qui t'est familier que tu dis que je suis le roi des Juifs ? Ou bien, est-ce que ce sont les Juifs qui t'ont dit cela ? Auquel cas, si ce sont les Juifs qui te l'ont dit, ils te l'ont dit en pensant au Messie, n'est-ce pas ? En pensant aux prophéties dont ils sont dépositaires. Et alors Pilate va répondre au verset 35, « Moi suis-je juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Moi suis-je juif ?» Ça veut dire, ai-je à entrer dans les démêlés entre juifs ? Ai-je à parler le langage des juifs ? Ai-je à m'inquiéter si tu es ou tu n'es pas le Messie ? Ça ne m'intéresse pas, ça. ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu entends régner, si tu entends vraiment t'emparer de l'autorité maintenant. C'est tout ce qui m'intéresse. N'est-ce pas? Voilà le sens de la réponse de Pilate. Pour lui, un roi, c'est celui qui exerce le pouvoir d'une façon effective et actuelle. Autrement dit, le pouvoir politique. Mais Pilate, en somme, transforme sa question, n'est-ce pas? Et puis, il voit là peut-être quelque chose d'un peu oiseux pour lui. Alors il lui dit, en définitive, il dit à Jésus, « Qu'as-tu fait? En somme, pour quel motif t'as-t-on amené devant moi? Et pourquoi dois-je te juger? Voyons, dis-moi toi-même, de quoi on t'accuse? » Et le verset 36 nous donne la réponse du Seigneur Jésus, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point de ce monde. » Cette réponse est à envisager dans deux sens, et il faut le faire si l'on veut méditer utilement la parole de Dieu, il faut savoir regarder les choses sous un jour et sous l'autre, et quelquefois, souvent, faire l'addition des deux aperçus. Dans le premier sens, Jésus reconnaît qu'il est roi, mais que sa royauté n'est pas de nature à inquiéter Pilate. Ça ne peut pas l'inquiéter, ça ne peut pas le mettre en émoi. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour prendre sa place que Jésus possède la royauté. Car cette royauté, ce règne, ce n'est pas en ce monde qu'il va l'exercer. Ce n'est pas en ce monde. Et la preuve que donne Jésus, la preuve éclatante, c'est qu'il n'a pas usé de la force des armes. Il ne s'est pas entouré d'une garde, d'une petite armée, d'une troupe, il n'a pas levé une troupe, il aurait pu le faire. Il n'a pas levé de troupe, il n'a pas de serviteurs ou de soldats à sa solde qui auraient des armes et qui auraient naturellement livré combat aux huissiers et à la cohorte pour ne pas se laisser prendre et livrer. Alors s'il ne l'a pas fait, si même, n'est-ce pas, il a laissé ses disciples aller, et Pilate n'ignore pas qu'il a été entouré de foules, et même de foules qui furent à un certain moment très dévouées, n'est-ce pas, qui auraient été prêtes à tout si Christ avait voulu les écouter et les suivre. Eh bien, donc, il n'a pas levé de troupes, il n'a aucune garde, il n'a pas usé de la force des armes pour se protéger contre ceux qui l'ont arrêté. C'est donc bien qu'il n'entend pas régner maintenant dans ce monde. Voilà le premier sens de la réponse de Jésus. Mais voici un second sens. Le règne de Christ n'est pas provenu de ce monde, c'est-à-dire n'a pas été tiré de ce monde. Le règne de Christ ne tire pas sa force et ses moyens de ce monde. Le règne de Christ n'est pas non plus naturellement intégré à ce monde. Il ne fait pas partie de ce monde-là. Il ne provient pas de la force de ce monde. Et Christ n'emploie pas des armes charnelles et terrestres. Il ne peut pas régner sur un monde qui est déchu, sur un monde qui est ravagé par le péché. Son règne sera un règne de justice parfaite. Il ne peut pas juger là. Et chers amis, je voudrais faire une petite digression pour vous mettre en garde contre une interprétation fautive du millénium, en dépit pourtant de ce que les textes formellement nous disent. Il arrive que des opinions prévalent sur des textes bibliques, et c'est bien dommage. On a pensé pendant le millénium qu'on ferait encore de l'évangélisation. Mais quelle folie! Si on faisait de l'évangélisation pendant le millénium, le règne de Christ sur la terre, c'est qu'il y aurait encore des âmes troubles, c'est qu'il y aurait encore des gens qui ne croiraient pas, c'est qu'il y aurait encore des gens dont il faudrait laver la conscience. Or, ce n'est pas du tout cela. Le règne du millénium sera un règne de justice parfaite. Au point que chaque matin, tout pécheur sera retranché. La connaissance de l'Éternel, la connaissance intime de l'Éternel, remplira la terre comme les eaux remplissent le fond de la mer, dit le prophète Ésaïe. Et le prophète Sophonie nous dit « Je donnerai à tous les peuples des lèvres pures. » Ce sera un règne de justice. Règne de, Christ ne peut pas régner sur une population composite. Une population dont les uns seraient des saints et les autres des gens équivoques, des gens qui seraient encore dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. Mais je ne comprends pas que des commentateurs aient pu dire ça. Comprends pas vraiment. Le règne de justice. Et ce sera le règne par la verge de paix. Il n'est pas question d'évangélisation dans le millénium. Il peut être question, n'est-ce pas, des gloires de Dieu. Il est question de chanter les gloires de Dieu. Question de louer Dieu. Vous ne trouvez que ça dans le psaume 72, par exemple, qui nous présente le millénium, n'est-ce pas. Nous voyons des louanges sur toute la terre. Donc le règne de Christ n'appartient pas à ce monde déchu et ne peut pas s'introduire dans ce monde déchu, parce qu'alors, il faudrait faire périr tous les pécheurs. Alors, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? C'est le temps de la patience. C'est un temps, le temps actuel, le siècle en cours, qui va se terminer bientôt, est celui de la préparation du règne de Christ, ce qui n'est pas la même chose. Préparation du règne de Christ. Christ est en train de lever des armées. Des armées, c'est le mot de la Bible. Des armées, et nous sommes de ces armées, si nous lui appartenons. Il est en train de lever des armées pour le règne à venir. Mais il ne faut pas confondre l'Église et le royaume de Dieu. L'Église est le champ de bataille, si je puis dire, où se préparent les armées du royaume de Dieu qui viendra. Le royaume de Dieu est dans le cœur. N'est-ce pas? Dans le cœur des chrétiens, dans le cœur de ceux qui appartiennent à Jésus. Mais ce n'est pas un royaume qui est encore manifesté. Il n'est pas encore visible. Au verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans ce monde, dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » La réponse de Jésus a été prononcée avec calme, avec douceur même, mais aussi avec une gravité qui a impressionné Pilate. Et c'est pourquoi Pilate, qui est intéressé et très intrigué, ému même, cet homme cruel, cet homme barbare, ce despote, il est ému. Et alors, il va dire au Seigneur, presque avec une note de sympathie, « Alors, tu es donc roi, sans se soucier, n'est-ce pas, de cette prétendue sédition de laquelle il pourrait avoir à se préoccuper. Non, tu es donc roi. Mais comment es-tu roi? Voilà une chose que je ne comprends pas. Tu es donc roi. C'est vrai que tu es un roi. Je suis en train de juger quelqu'un qui se dit roi. Tu es roi. » Et cela, n'est-ce pas, ne pouvait pas sonner d'une façon ironique dans la pensée de Pilate, mais c'était au contraire quelque chose qui l'avait captivé. Tu es roi. Et il était acquis à cette royauté qu'il ne comprenait pas, mais cependant il était impressionné. Tu es donc roi. Et c'est ce qui va faire que Pilate va se décider à exclure toute accusation contre Jésus. C'est d'être impressionné là. Il a été là, impressionné. Dieu, n'est-ce pas, a voulu, entre autres avertissements, que Pilate et celui-ci cette sensation que la parole du Seigneur a produite dans sa conscience. Et il croit vraiment, il croit cela, mais il ne sait pas comment, il ne comprend pas. Et Jésus va répondre, c'est pourquoi Jésus qui lit dans son cœur, n'oublions jamais cela, n'est-ce pas, quand nous étudions les réponses du Seigneur, il lit dans le cœur cet homme, et il va lui dire, tu le dis, je suis roi. Ce qui n'est pas une réaffirmation, ce qui veut dire ceci, eh bien, tu l'as dit toi-même avec une certaine assurance en toi, dans ton cœur. Tu l'as dit que j'étais roi. Tu viens de le dire et tu le crois que je suis roi. C'est cela qu'il y a dans la réponse de Jésus. Tu le dis, je suis roi. Ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, ben, je te prends au mot. Tu vois, tu as prononcé le mot, tu as prononcé la chose, eh bien, je la prends. Mais non, c'est cela veut dire, tu viens de dire quelque chose qui s'est implanté en toi. Tu viens de prononcer la chose et on pourrait presque dire que c'est par la vertu du ciel, par un message du ciel, que Pilate peut reconnaître que Jésus est roi, sans s'insurger. Parce que normalement, n'est-ce pas, Pilate aurait arrêté là l'entretien, et il aurait dit, bon, tu viens d'avouer que tu te fais roi, bien mon ami, ça suffit. Allez, sous le gouvernement de l'empereur de Rome, eh bien, avec ça, on est bon pour la croix, n'est-ce pas? Mais pas du tout. Pas du tout, voyez. Et alors, Jésus, lisant sa préoccupation, lisant dans son cœur, va lui expliquer le principal de cette royauté qu'il s'est attribuée. Il va lui expliquer le principal. Et il va lui dire, je suis né, vois-tu, je suis nu dans ce monde, uniquement né, venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Je suis venu pour rendre témoignage. Mon règne est fondé sur la vérité. Et je viens apporter cette vérité qui est le fondement du règne que j'exercerai plus tard. La vérité. Nous savons dans les Écritures que le règne de Dieu a pour fondement la justice. La justice et l'équité sont la base de ton trône, disent deux psaumes, notamment le 87. La justice et l'équité sont la base, c'est-à-dire le fondement du règne de Dieu. La justice et l'équité. La justice, c'est-à-dire la réalité éternelle des choses. Les lois de Dieu comme régissant toutes choses dans l'éternité, les lois de Dieu comme supportant l'existence des êtres et des choses, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, tout cela, c'est la vérité. Et cette vérité, elle existe. Et cette vérité, elle est le fondement de mon règne. Et je suis venu pour l'apporter, cette vérité, lui rendre témoignage, c'est-à-dire lui permettre de se faire jour dans ce monde enténébré, j'apporte la vérité. N'oublions pas que Jésus est la vérité, il est le chemin, la vérité, et c'est sa personne, par sa personne même, que la vérité est apportée. Mais, bien sûr, Jésus va ajouter ceci qui est peut-être un propos qui tend une perche à Pilate. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ce qui veut dire, quiconque a dans son cœur, non pas le goût de la domination présente, non pas la recherche des richesses et des privilèges, mais qui a dans son cœur la faim, la soif de justice, celui qui aspire à la justice, eh bien, celui-là, il aspire, il est de la vérité, et alors, lorsque j'arrive, lorsque je viens dans ce monde, eh bien, il se laisse, celui-là, éclairé par moi, il entend ma voix, il entend mes paroles, il les reçoit, il les boit. Il boit mes paroles parce que c'est ça qu'il attendait. Parce que c'est ce témoignage de la vérité qu'il désirait recevoir du ciel. Il l'a reçu. Celui qui est la vérité, celui qui a dans son cœur cette soif, cette aspiration. Vous savez, nous avons vu dans l'évangile de Jean que c'est celui-là que le Père enseigne pour le conduire et le donner au Fils. Enseigne, et je vous ai dit que enseigner, tous seront enseignés de Dieu, tous ceux qui auront cette aspiration dans le cœur seront enseignés, c'est-à-dire un enseignement préalable, c'est-à-dire une connaissance préalable pour aller au Fils, n'est-ce pas ? Pour reconnaître dans le Fils le chemin, la vérité et la vie. Et il les donne au Fils. C'est cela que le Père donne au Fils. Et c'est ici ce que Jésus dit en peu de mots, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comme vraiment, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus sait énoncer des grandes réalités avec peu de mots. Et nous, souvent, quand nous donnons des explications, combien de mots on emploie, combien de phrases alambiquées, souvent, n'est-ce pas, hein, il nous faut employer pour expliquer les choses. Quiconque est de la vérité, est de la vérité. C'est-à-dire, appartient à ce monde nouveau, ce monde spirituel de la vérité. Il appartient sans le savoir. Il appartient parce qu'il a soif, il soupire. Et il est au contraire affligé des choses de ce monde. Il est comme déjà détaché des choses de ce monde. Il aspire à ça. Alors, il est déjà de ce domaine merveilleux de la vérité. Il suffit que celui qui est la vérité arrive, se présente, pour que, immédiatement, il soit lui-même introduit dans la vérité et dans la vie. Mais Pilate va répondre à cela. Qu'est-ce que la vérité ? Alors Pilate s'attendait quand même, n'est-ce pas, à autre chose, et puis le quiconque est de la vérité, écoute ma voix, ça l'ennuie un petit peu. Si le Seigneur n'avait pas fait cette sollicitation, s'il ne lui avait pas tendu cette perche, encore ça va bien, mais il est de ces gens, n'est-ce pas, qui sont un peu, qui sont intéressés, sont impressionnés par la parole de Dieu. Puis quand on leur tend la perche, on leur dit, mais vous aussi, vous pouvez être sauvés, si Christ, si vous saisissez Christ, vous pouvez l'être. Alors, ils se dérobent, ils fuient, n'est-ce pas, et à ce moment-là, ils vont manifester leur scepticisme. Il se réfugie dans le scepticisme. C'est ce que fait Pilate. Mon pauvre ami, dit-il, mon pauvre ami, j'aime bien t'entendre, oui, ça me fait plaisir de t'entendre sur ces choses. Je t'aurais bien entendu si tu n'avais pas tendu cette perche, si tu n'avais pas eu l'air de m'inviter à t'écouter, à te prendre vraiment au mot. J'aurais bien aimé que tu philosophes un peu sur tout ça, n'est-ce pas ? Oui, mais mon pauvre ami, la vérité, mais tu ne sais donc pas que ça n'existe pas, tu ne sais pas que le monde est rempli de multiples vérités et on ne peut pas savoir laquelle est la bonne. Il n'y en a pas de bonne, chacun a sa vérité, tout système a sa vérité. C'est le scepticisme du monde, le grand scepticisme du monde et le scepticisme qui remplit la terre aujourd'hui. Et là, et ce scepticisme, savez-vous par quoi il est produit ? Savez-vous par quoi il a toujours été produit ? Il a toujours été produit par les spéculations de la raison humaine. Dès que la raison humaine, n'oublions pas que l'homme est pécheur, n'oublions pas que tout est faussé dans la nature humaine, et dès que la raison se met à travailler, dès que la raison cherche des motifs, dès que la raison se livre à la philosophie elle-même, pas, compte non tenu, bien entendu, de la révélation de Dieu, eh bien, alors, cette raison humaine, elle s'égare, bien entendu, et puis, elle voit toutes sortes de choses, elle construit des systèmes variés, il y a des philosophes de l'Antiquité et qui ont eux-mêmes découvert 10-15 systèmes philosophiques, n'est-ce pas, en se faisant eux-mêmes la contradiction, Vous savez peut-être aussi que, c'est un petit peu en marge de notre méditation, mais il faut que nous sachions actualiser l'évangile aujourd'hui et comprendre l'évangile face à notre temps. Eh bien, il y a, n'est-ce pas, actuellement, quelque chose qu'on appelle le marxisme. J'en parle souvent parce que c'est une grande nuit dans nos ténèbres. C'est, on peut dire, la partie la plus centrale, la plus forte de nos ténèbres actuellement, le marxisme. Et le marxisme de Karl Marx et de ses successeurs, ce marxisme est dialectique. On dit qu'il est dialectique. Ce qui veut dire que il aime, il préconise, il se sert de ce qu'on appelle la dialectique, en particulier dans le marxisme, c'est-à-dire, la dialectique, c'est tout simplement fait de deux propositions, mais il peut y en avoir à l'infini, une première proposition qui affirme quelque chose, non. Une deuxième proposition qui affirme autre chose. Hein? On fait deux propositions, autrement dit, deux vérités qui sont indépendantes l'une de l'autre et contraires l'une à l'autre. Et puis, on essaie de faire la synthèse, le compromis entre ces deux propositions. Et puis alors, le résultat qu'on obtient, et on considère ça comme la vérité. Ah, c'est drôle. Mais notre temps en est là. Notre temps et les marxistes, les humanistes tiennent à la dialectique, ce qui montre combien l'homme est faussé par sa raison, combien la raison de l'homme égare. Je disais hier, à Villeneuve, à l'Assemblée de Villeneuve, que l'intelligence de l'homme mise à l'œuvre, hors, bien entendu, de Dieu et hors des paroles de Dieu, de la révélation de Dieu, l'intelligence de l'homme mise à l'œuvre n'a pas d'autre triomphe que le triomphe de la force brutale. Le triomphe de l'intelligence de l'homme est exactement pareil au triomphe de la force brutale. C'est la même chose. C'est aussi mauvais, c'est aussi destructeur que la force brutale. Ah, chers amis, si vous êtes de ceux qui admirez aujourd'hui nos savants et nos intelligents, je ne vous félicite pas. Je ne dis pas de mépriser. Je ne dis pas de haïr, bien entendu, parce que ce n'est pas notre affaire. Au contraire, ben, nous devons aimer pour sauver avec la parole de Dieu. Mais, chers amis, ne nous laissons pas prendre au vertige qui remplit le monde aujourd'hui. Tout ce qui est culture, oh la culture, tout ce qui est science, on en est si fiers. Eh bien, cela n'est qu'un débordement de force. Hirsute de force, brutale. C'est pas autre chose. Et vous avez des gens comme, il est bien caractéristique, Jean-Paul Sartre, avec son système, l'existentialisme. Eh bien, Jean-Paul Sartre et l'existentialisme sont la démonstration de ce que je viens de vous dire. L'existentialisme est une folie humaine, une folie de la raison humaine, un égarement on ne peut plus grand de la raison humaine. Parce que, évidemment, Jean-Paul Sartre, il le montre maintenant, il est avec les maoïstes. On voit bien de quelle source, n'est-ce pas, est sa pensée. C'est une pensée contre Dieu. L'existentialisme a été établi contre Dieu. Ça, c'est un égarement. Je disais à une femme qui est professeure de philosophie à Paris il y a quelque temps, au début de cette année, quand je suis allé à Paris, au Sentier, rencontrer une femme protestante qui est venue assister à nos réunions. Et elle était professeure de philosophie dans un lycée d'État. Et alors, je lui ai dit, mais que pensez-vous de l'existentialisme? Dites-moi un peu. cette personne n'est pas encore convertie. Enfin, elle croit en Dieu, elle n'est pas encore, elle est loin encore d'être convertie. Enfin, à ce moment-là. Et alors, elle m'a dit, oh, ce que j'en dirais, c'est que dans le fond, chacun y trouve un petit peu ce qu'il veut, mais ce n'est qu'un vaste bavardage sans consistance. Sans consistance réelle. Et elle m'a dit, devant la philosophie, là, on voit bien que c'est un égarement. Véritablement, je ne peux pas considérer les choses autrement que comme un égarement. Et puis, c'est pas fini. L'existentialisme date déjà d'un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Et maintenant, d'autres philosophies sont venues, comme le structuralisme, toujours davantage tourné contre Dieu. Le structuralisme. Le monde qui se structure lui-même, c'est bien entendu, pas question de ciel, pas question d'un être suprême, pas question de grâce, pas question de justice, pas question de tout cela. La raison humaine s'égare. Et la raison humaine, comme je vous le disais, avec son travail, avec ses spéculations, a produit le scepticisme, et le scepticisme ravage. Les hommes d'aujourd'hui ravagent la terre. Les hommes ne croient plus à rien, ne connaissent rien, ne savent plus sur quoi s'appuyer. Ils ne savent plus du tout sur quoi s'appuyer. Et ça, c'est leur faute. C'est eux qui ont fait cela. Oh, combien heureux ceux qui ont pu croire, chers amis. Combien heureux êtes-vous si vraiment vous croyez et si vraiment vous vivez votre foi. Car le monde est dans un égarement jamais égalé. Mais Pilate, évidemment, après avoir dit son scepticisme, Pilate va sortir pour aller vers les Juifs. Et puis, dehors, dans la rue, ils sont toujours dans la rue, et il va leur dire, écoutez, moi, je vais vous redonner Jésus parce que je ne trouve rien en lui, aucun crime, aucun motif d'accusation contre lui, je ne trouve rien en lui, alors le voici, moi je vous le rends, n'est-ce pas? Et pour le rendre, Pilate va se servir d'un prétexte, on était à la veille de la fête de Pâques, alors il dit, vous savez, il y a une tradition, une coutume, il faut que je vous relâche un prisonnier, ben ça tombe bien, tenez, je vais vous relâcher celui-là, je vais vous redonner ce prisonnier-là, et dans le fond, Pilate était tout heureux de redonner ce prisonnier-là et non pas un autre, parce que les autres étaient d'authentiques maîtres en sédition, n'est-ce pas? Des séditieux absolument authentiques, comme ce Barabbas. Hein. Alors, il n'avait pas tellement envie de relâcher un autre que Jésus. Mais alors, regardez cette foule. Cette foule, non, pas la peine. Cette foule parmi lesquels il y avait certainement ceux qui avaient vu des miracles, ceux qui avaient entendu les paroles de l'amour divin sortir de la bouche du juste. Il y avait de ceux-là parmi ceux qui maintenant vont s'écrier « Non, pas lui, pas Jésus, mais Barabbas !» Or, Barabbas, nous dit Jean, était un brigand. C'était un brigand. Et chers amis, ce choix est terrible. Le choix de Jean, dont le cœur ne s'est pas laissé pénétrer par la parole de Dieu. Et chers amis, ici l'Évangile nous montre quelque chose de grave. Nous montre quelque chose d'infiniment grave. Parce que ce choix entre Jésus et Barabbas, ce choix de la foule, c'est le choix que tout homme doit faire sur la terre. Doit-il préférer son ancienne nature, conserver l'homme animal en lui, l'homme naturel, ou veut-il, au contraire, donner vie en lui à l'homme spirituel, à l'homme nouveau qui va naître? Il faut qu'il fasse un choix. La parole de Dieu lui propose de le faire naître de nouveau, lui propose de le changer, de le régénérer, de faire de lui un homme nouveau. Mais quel homme va-t-il préférer? L'homme nouveau ou l'homme animal? L'homme terrestre ou l'homme spirituel? L'homme terrestre, c'est un brigand. Est un brigand. Eh bien, Souvent, chers amis, il arrive que des gens, parce que le cœur ne s'est pas humilié, parce que le cœur s'est pas ouvert à la lumière d'en haut, il arrive que des gens, après avoir entendu, après avoir été mis d'une façon consciente devant ce choix, ou naître nouveau et vivre éternellement, ou rester ce que l'on est, c'est-à-dire un brigand, et garder sa liberté d'agir comme brigand sur la terre, garder la liberté, mais aller à la perdition, eh bien il y a des gens qui crient Barabbas, c'est Barabbas que nous voulons. Voulons garder le vieil homme, voulons garder celui-là, voulons garder les avantages de la terre. Quelle chose terrible que celle-là. Chers amis, si vous avez choisi Jésus, si vous avez choisi l'homme nouveau, à l'image de ce Seigneur dont nous étudions là, par le moyen de l'Évangile, la gloire et l'œuvre sur la terre, si vous avez choisi Jésus, si vous avez choisi de lui ressembler, ressemblez-lui de toutes vos forces et demandez au Seigneur qu'il imprime en vous la sublime beauté, comme nous le chantons, de ce Jésus, de notre Seigneur, du Fils de Dieu. Mais rejetez Barabbas. Laissez-le en prison, laissez-le dans la mort. C'est un séditieux, c'est un homme, c'est un brigand. Laissez le vieil homme dans la mort. Et soyez vous-même celui qui accepte la croix et qui vit sur cette terre en porteur de croix. Amen.